franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Seconde de journée dans la Meurthe-et-Moselle, un département qui porte une assemblée départementale de collégiens. Il n'est pas le seul à proposer une approche de la pari politique aux jeunes. Il y a plusieurs départements qui ont le même principe. Mais ce dispositif est plutôt pertinent. Deux jeunes par collège, privé ou public, entrent dans ce conseil et siègent à une assemblée à l'image de celle des élus. Les jeunes découvrent l'institution, ils sont les porte-parole de leur établissement, ils peuvent faire remonter leurs préoccupations. Et puis ils font acte de citoyenneté en prenant la parole lors des réunions d'assemblée et soumettent des propositions aux élus. Il y a un site avec cette assemblée départementale des collégiens à nos pages d'émission. Premier témoin du jour, donc Thomas Simonin. Thomas qui élève ses poules pondeuses sur la musique de la flûte enchantée de Mozart. Si, c'est vraiment sérieux. Et après, Brooklyn, Paris, Bruxelles et les premières villes à ouvrir un supermarché coopératif et collaboratif, c'est au tour de Nancy de profiter bientôt de cette grande épicerie gérée par ses clients. Charles Thomassin, qui pilote le projet, sera notre second invité.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Thomas Simonin, bonjour.
Bonjour.
Et Thomas, troisième génération d'agriculteurs éleveurs chez les Simonin.
Oui, voilà. Donc, en fait, il y avait mon grand-père qui faisait de l'élevage de bovins, de vaches, et il avait des chevaux aussi. Après, il y a mon père qui a des brebis.
Oui.
Et donc moi je me suis installé avec un poulailler de 4000 poules pondeuses bio plein air. Donc c'est des poules qui mangent de l'aliment bio et qui ont 2 hectares de surface autour du bâtiment pour pouvoir sortir.
Vous représentez l'agriculture moderne dans cette troisième génération, Thomas ?
Bah j'espère, en tout cas j'essaie de faire le maximum. Disons que j'essaie de partir dans un mode de production écologique. J'essaie de réduire les intermédiaires entre moi et le consommateur. Et après, j'essaie de communiquer avec, on va dire, des moyens modernes, donc Internet, Facebook, les réseaux sociaux, pour promouvoir mon activité.
Et on se dit, en vous écoutant, que finalement, un élevage rationnel comme le vôtre, un poulailler rationnel, bio, peut être accessible, facilement réalisable, je dis facilement entre guillemets, et plutôt rentable.
Oui, tout à fait. Après, ça demande du travail, c'est un projet d'entrepreneur, donc forcément, on compte pas nos heures, on n'est pas aux 35 heures semaine. Mais après, oui, c'est rentable, il faut évaluer les risques. Mais après, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits qui respectent l'environnement et qui respectent le bien-être animal. Donc voilà, ils sont prêts à mettre quelques centimes d'euros en plus. Et moi, ça me permet d'avoir une activité rentable, quoi.
Oui. Et alors, depuis septembre 2015, la création de Picorette et compagnie, vous n'en avez pas assez d'écouter tous les jours la flûte enchantée de Mozart ?
Disons que je les passe tous les matins aux poules, donc moi j'écoute pas forcément tous les matins. Mais c'est vrai que j'ai installé 3 enceintes dans le bâtiment. Donc ça me permet, tous les ans en fait je renouvelle le cheptel, j'ai des nouvelles poules, des jeunes poules. Ça permet de les habituer au bruit, comme ça elles sont moins sauvages quand on rentre dans le bâtiment, quand il y a des visites. Ça les déstresse, un peu comme pour les humains.
Et elles sont-elles plus réceptives à Mozart qu'à Beethoven ou à Vivaldi ?
Bon, après, ça change pas grand-chose sur les musiques classiques. C'est sûr qu'il faut pas leur mettre du rock. Ça va pas les déstresser. Mais après, au niveau des musiques classiques, bon, c'est à peu près pareil.
Ouais. Alors, Thomas, vous avez un poulailler bio de 4000 poules. Hein, on est au nord-est de Nancy, à Lettres, sous Amance. Et vous avez la garantie, avec ce principe de grande musique, d'atteindre une moyenne de 3600 œufs par jour.
Voilà, c'est ça. En période de ponte maximum, je suis même à 3800 œufs par jour. En fait, l'idée, c'est d'avoir une ambiance générale dans le bâtiment la meilleure possible.
Délibérément, vous avez refusé la méthode industrielle.
Oui, donc en fait, moi, à la base, je suis parti dans l'agriculture biologique parce que à côté des poules, j'ai aussi un peu de culture céréalière. Et je voulais pas épandre de produits phytosanitaires. Quand on conduit le tracteur, qu'on épand les produits, on en respire pas mal. Donc les premiers touchés, avant les consommateurs, c'est vraiment les agriculteurs qui épandent les produits dans les champs. Donc à la base, c'est vraiment pour ça que je me suis orienté vers l'agriculture biologique. Et après, je me suis orienté vers un élevage de poules pondeuses biologiques parce qu'il y avait de la demande autour de Nancy. Et donc, vu que je faisais déjà des cultures bio en céréales, et tout naturellement, j'ai fait de l'élevage biologique.
Ouais. Alors, si je fais un dernier calcul, Thomas, 3600 œufs jour, les boîtes de 6, ça fait 600 boîtes par jour, vendues en moyenne 2 euros dans un biocoop. Quelle est la part qui revient à l'éleveur que vous êtes?
Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs débouchés au niveau de ma clientèle. Donc je vends en direct à la ferme, je vends à des supermarchés, à des magasins bio, à Biocoop, et je vends aussi à des grossistes. Donc tout ça, ça me permet de pas avoir de vendu. Et donc maintenant, bon après, c'est forcément du travail, hein. c'est de l'élevage, donc les œufs, faut les ramasser tous les jours, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Mais après, avec de l'organisation et puis du travail sérieux, de l'aide familiale aussi, hein, y a ma mère qui m'aide, j'ai un apprenti sur la ferme. Donc tout ça, ça me permet de vivre décemment de mon travail et aussi de pouvoir me prendre des week-ends, arriver à me faire remplacer, de pouvoir partir en vacances. Donc voilà, de ne pas être tout le temps non plus à travailler 16 heures par jour.
Bien sûr. Ça s'appelle Picorette et Compagnie, picoretteetcompagnie.fr, adresse internet et au même nom, une page Facebook. Et voilà le bel exemple d'un poulailler bio à l'être sous amance avec Thomas Simonin. Merci Thomas.
Merci bien, bonne journée.
À vous aussi, au revoir. Des passoires énergétiques, c'est ainsi que l'on qualifie les pavillons du lotissement de Clairlieu à Villers-les-Nancy, un cas de figure fréquent en France, hein, dû à une période de construction industrielle dans les années 60-70 sur la base du simple, rapide, abordable. Ça donne un quartier de 1300 pavillons conçus en panneaux de béton préfabriqués à l'ouest de Nancy. Des habitants victimes du surcoût engendré par ces passoires ont souhaité informer les particuliers, former les professionnels à la maîtrise de l'énergie. Ainsi est née, en novembre 2009, l'association Clairlieu Éco-Défi autour de ce projet. Une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, Clairlieu Éco-Rénovation Solidaire a vu le jour afin de gérer les réalisations, de mutualiser les moyens pour que chacun, quels que soient ses moyens et son âge, puisse accéder à cette transformation. Et on a expérimenté l'usage de caissons remplis de matériaux biosourcés qui a prouvé que la consommation d'énergie était divisée par 7 et les factures par 10. L'avantage de cette technique, c'est qu'on recouvre la maison hors d'eau et hors d'air. En moins d'une semaine, le processus baptisé boîte à watt va passer à la vitesse supérieure et de fait, il y a une plateforme de financement participatif pour une campagne qui est lancée. Vous allez trouver l'adresse. Et puis tout le monde peut rejoindre l'association, c'est clairlieuecodefi.fr. On estime à 31 millions le nombre de logements en France. 31 millions qui mériteraient d'être remis aux normes actuelles du confort énergétique, du travail et des emplois en perspective. Charles Thomassin, bonjour.
Bonjour.
Charles, vous pilotez un projet de supermarché coopératif et collaboratif à Nancy qui va s'appeler la Grande Épicerie Générale. Décidément, ces projets de supermarché coopératif, à l'image du fameux de Brooklyn, de la Park Slope Food Coop ou de la Louvre à Paris ou de Bicops à Bruxelles. Et puis en France, maintenant, il y a d'autres projets qui émergent. Décidément, ce principe a le vent en poupe. Vous, il est né dans le cadre de votre service civique.
Tout à fait. J'ai eu cette idée lorsque l'on a créé une épicerie solidaire étudiante sur Nancy.
Oui.
Et le conseil départemental m'a aidé au sein d'un service civique à maturer l'idée et à réfléchir et à voir si ce projet pouvait être viable sur Nancy.
Vous avez eu une adhésion d'emblée d'un grand public à Nancy ?
Alors oui, dès qu'on a lancé l'idée, pas mal de gens se sont déclarés intéressés. Et puis il y a un an, lorsqu'on a créé notre association pour porter un peu plus loin le projet, on s'est vite rendu compte au fil des réunions d'information qu'il y avait du monde. On a notamment fait une projection où 250 personnes sont venues voir un film qui retrace le projet de Brooklyn.
Oui.
Pour une ville comme Nancy, c'est pas mal.
Alors, nous sommes dans une phase intermédiaire actuellement. La fin de l'année dernière, vous avez créé un groupement d'achat.
Oui, effectivement, un groupement d'achat qui permet en fait à nos adhérents de commander en ligne un certain nombre de produits pour justement voilà, tester un petit peu la démarche du projet, commencer à faire travailler un petit peu les gens à nos côtés, et puis qu'ils puissent consommer déjà un petit peu différemment en attendant d'avoir notre supermarché et sa grande surface.
Est-ce que cette phase intermédiaire est utile aussi pour fidéliser des producteurs ?
Oui, pour fidéliser des producteurs, où effectivement aussi se rend compte parfois que l'envergure de notre projet est peut-être plus grande que ce que certains producteurs pourraient fournir, donc de mettre en place un peu aussi des synergies entre les producteurs pour pouvoir avoir les produits que les clients demandent en fait.
Alors pour l'instant vous êtes dans un local provisoire qui est mis à disposition, enfin qui vous est loué par la ville de Nancy.
Tout à fait, oui. Rue Saint-Nicolas, en plein cœur de Nancy, ce qui nous permet d'avoir une jolie vitrine et de commencer à toucher un peu plus de monde.
Et ensuite, la création de la grande épicerie générale, est-ce que vous avez un lieu ? Parce que ça prend une autre dimension, une autre envergure.
Alors, on n'a pas encore de lieu définitif. On recherche, avec notamment la Chambre de commerce et d'autres partenaires, on essaie de faire une étude d'implantation pour voir où serait le plus judicieux d'installer le projet. Mais effectivement, on recherche un local qui ferait près de 800 mètres carrés, voire au-delà.
Chaque membre de la société coopérative, puisqu'il y a une société coopérative que vous allez créer prochainement, chaque membre de la société coopérative sera client et en même temps propriétaire d'une part du supermarché.
C'est ça. C'est le but, effectivement, que chacun ait la voix au chapitre.
Dans la charte, Charles, vous envisagez que chaque membre devra travailler 3 heures par semaine. Vous avez établi cet horaire et cette mesure sur quel constat ?
Alors, c'est 3 heures par mois, et effectivement, on part de ce qui se fait dans les autres initiatives, qui est du même ordre, et puis c'est aussi une charge, entre guillemets, de bénévolat qui est supportable. Donc voilà, ça permet à chacun de faire les tâches de base du supermarché, d'achalander, tenir la caisse, et permettre de réduire effectivement le coût de fonctionnement.
Ouais. Et vous estimez la part à environ 100 euros. Mais cela veut dire qu'une personne qui achète 3 parts n'aura pas plus de pouvoir dans les décisions du fonctionnement de la coopérative qu'une personne qui n'en possède qu'une.
Non, effectivement, c'est une personne, une voix. Et ceux qui prendront plusieurs parts, en fait, soutiendront financièrement le projet, mais n'auront pas plus de pouvoir.
Le site, c'est grandeepiceriegénérale.fr. Il y a une page Facebook GEG comme Grande Épicerie Générale Nancy. Et puis, vous aurez aussi des liens avec les précédents, et en particulier la Louve à Paris, qui demeure la première référence en France. Merci Charles.
Merci à vous.
Je rappelle, avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, si vous n'avez pas entendu les précédentes annonces, qu'à la rentrée pour la 12e saison des carnets de campagne, nous commencerons par le Pas-de-Calais, avant de rejoindre l'île de la Réunion, là où Nicolas va enregistrer à partir de demain. Et en Seine-Maritime, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire.